Vous écoutez France Culture.
Merci beaucoup Sarah Petitbon. Prochain journal à 9h sur France Culture. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Secret des Sources.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Le secret des sources, comme tous les samedis matins sur France Culture. Les festivals d'Aix-en-Provence et d'Avignon pourront-ils ouvrir comme prévu mercredi et vendredi prochain? Ou bien seront-ils perturbés, voire annulés en raison du conflit des intermittents du spectacle? Conflit social de moyenne intensité, mais conflit réel, le mouvement des intermittents continue. À la différence du conflit des cheminots à la SNCF, très dur les premiers jours, qui s'est peu à peu essoufflé et qui est maintenant terminé. Pendant deux semaines, ces conflits ont été concomitants et traités simultanément par les médias. Mais comment ont-ils été traités? Par leurs angles, par leurs mots? Les journalistes ont-ils plus facilement condamné le mouvement des cheminots que celui des artistes? Alors nous en parlons ce matin avec trois invités. Thierry Borsa, directeur de la rédaction du Parisien, Olivier Auguste du quotidien L'Opinion et Nassira El-Mohadem, journaliste à e-télévision. Bonjour à tous les trois et bienvenue.
Bonjour.
Avec la sémiologue Mariette Darigrand et Éric Chavroux, monsieur Images et Multimédia, nous nous intéresserons aux mots, aux images et aux réseaux sociaux, aux échos de ces conflits sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le débat est ouvert sur franceculture.fr, sur Twitter et sur Facebook. Et justement, on va commencer avec vous, Éric, puisque des médias compréhensifs avec les intermittents, plus sévères avec les cheminots, eh bien, ce sont deux unes du Parisien qui nous ont conduit à poser cette thèse, qui nous ont mis en quelque sorte la puce à l'oreille. Alors Thierry Borsa, à vos côtés, réagira après votre arrêt sur image, qui est plutôt d'ailleurs ce matin un arrêt à quai, puisqu'il s'agit d'images de grève de la SNCF, Éric.
Oui, deux images presque identiques à deux jours d'écart, de une du Parisien donc. La première datée du 11 juin, alors elle nous montre un quai bondé de la gare de Lyon. Le quai vu de haut, en plan large, à gauche on a une locomotive de TGV, mais surtout à droite, là où on a le plus de champs visuels, hein, on a une rame presque entière de RER, porte ouverte, et puis une grande masse de voyageurs, ce qui accrédite la thèse d'un train immobilisé. Et d'ailleurs, le titre au-dessus est tout simplement « Quelle galère !» avec un point d'exclamation, une typographie presque aussi grande que le nom du journal. Le surlendemain, la photo, c'est le double. On est au milieu des voyageurs, face à eux, les visages sont fermés. Et tout ça, c'est ponctué par un titre toujours aussi important, presque pleine page. Ça suffit, avec encore un point d'exclamation. Et donc là, on a vraiment l'impression que ça bascule, que finalement, vous prenez parti, aussi bien en vous plongeant au milieu des voyageurs qu'en disant tout simplement « ça suffit ». Et du coup, vous faites épingler par Twitter, notamment par Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint à l'hebdomadaire Politis, qui voit tout simplement le réflexe d'une presse d'opinion.
Thierry Borsa du Parisien.
Alors, ce n'est pas une presse d'opinion. En revanche, le Parisien, il a parmi ses valeurs une qui est totalement prioritaire, c'est d'être un journal de proximité, de faire le journal qui est à la fois le miroir de la réalité de ce que vivent les gens et aussi le journal qui leur donne la réalité des faits, qui permet de comprendre. Si on est allé effectivement jusqu'à titrer « ça suffit », c'est que tous les reporters que nous avions sur le terrain, ils étaient nombreux, puisque dans chacune de nos éditions départementales, on était tous les matins et tous les soirs avec les voyageurs qui pâtissaient un peu des effets de cette grève. Et tout ce qui nous remontait pour l'essentiel, c'était des gens qui en avaient un peu ras-le-bol. qui nous expliquaient qu'ils avaient du mal à aller à leur travail, qui nous expliquaient qu'ils commençaient à s'inquiéter pour ceux qui avaient des enfants qui devaient passer le bac, puisque la grève a à un moment menacé le transport pour les épreuves du bac. Et c'est en fait cette proximité avec nos lecteurs et finalement cette volonté que nous avons d'être aussi le reflet de ce que pense une majorité de personnes qui sont nos sources d'information qui nous a fait faire cette manchette.
Sauf qu'il n'y a pas de guillemets. C'est vous qui parlez.
Absolument.
Il n'y a pas de guillemets et on voit quand même l'évolution en deux jours. Quelle galère, c'est assez factuel. Hein, ça suffit, vous prenez position, en tout cas vous engagez le journal. Ce qui n'est pas dans la tradition du Parisien, qui est un journal absolument factuel et neutre, qu'il s'agisse de politique ou d'un gros conflit social. Ça a été un choix délibéré, ça a été discuté en conférence de rédaction avec vos directeurs adjoints, vos rédacteurs en chef?
C'est toujours discuté en conférence de rédaction. Si vous voulez, là, on est dans une progression complètement logique. Quelle galère, on n'a pas donné notre opinion sur ce mouvement. Voilà, on a simplement constaté qu'il existait et les effets qu'il produisait tout de suite. Voilà. À partir du moment où il s'est mis à durer, sans que finalement, de la part des grévistes, il y ait de véritables explications compréhensibles. Je veux dire, l'ensemble quand même des intervenants dans ce conflit, au-delà des syndicats, c'est-à-dire la direction de la SNCF, les pouvoirs publics, tout le monde a parlé d'incompréhension. C'est-à-dire que les raisons de la grève n'apparaissaient quand même pas de façon absolument évidente, ou en tout cas les raisons de mener une grève aussi dure n'apparaissaient pas comme une raison évidente. Donc à partir du moment où on a vu que sans explication qui permettait de comprendre ce mouvement, sa durée et ça continuait donc à générer des perturbations importantes, il y a effectivement pour le coup quelque chose comme une prise de position, effectivement, oui. Mais totalement partagée, hein, sur laquelle on a en effet échangé au sein de la rédaction, qui nous a fait choisir ça. Après, exprimer une opinion, c'est d'une certaine manière aussi légitime pour un organe d'information. Finalement, on ne peut pas toujours être totalement neutre, totalement en dehors de la réalité des choses.
Éric.
Finalement peu à l'écoute de ce que disent et de ce que pensent les gens. On est aussi là pour le refléter.
Et pourquoi ne pas renvoyer aux revendications des grévistes sur la deuxième une, sur la une ça suffit, ne serait-ce que pour dire qu'elles sont floues, comme vous venez de l'expliquer?
Alors c'est expliqué à l'intérieur, on ne peut pas tout dire dans un titre de manchette.
Olivier Auguste, journaliste à l'Opinion, l'Opinion d'ailleurs qui fête son premier anniversaire.
On vient de le fêter, ouais.
Et qui marche plutôt bien.
Pas mal.
Votre journal, comme son nom l'indique, est une presse d'opinion qui se revendique libérale et qui s'intéresse beaucoup à l'actualité économique. Alors... Est-ce que chez vous, quand vous voyez arriver un conflit, et notamment à la SNCF, vous vous dites c'est forcément un conflit rétrograde et conservateur? Non, comment vous avez abordé le traitement de cette actualité-là?
Non, pas du tout.
SNCF spécifiquement.
On ne se cache pas du tout, effectivement. Il y a le titre, l'opinion, et la ligne du dessous, c'est quotidien libéral. Donc on assume ce qu'on est.
Et européen, je crois.
Et européen et pro-business, pour compléter le slogan du patron Nicolas Bétou. Pour tout vous raconter, moi je suis un spécialiste des questions sociale en général, mais pas du transport. Donc, la première chose que je fais, c'est de commencer à me renseigner sur qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme, de quoi on parle, quels sont les positionnements des uns et des autres. Ça, je le fais vers le mois de novembre dernier déjà, parce que il y a une première grève qui s'annonce en décembre, que le texte est en voie de préparation, il passe en Conseil des ministres. Et voilà, donc je fais tout simplement mon job pour décortiquer avant de pouvoir... effectivement, prendre une position. Nous nous revendiquons comme un journal d'opinion, mais c'est pas le café du commerce. L'idée, c'est de s'appuyer sur des arguments.
Vous n'êtes pas pavlovien?
Non, je crois pas. Et en tout cas, j'ai eu des quatre grands syndicats de la SNCF, les deux qui appelaient à la grève et les deux qui n'y appelaient pas. Je les ai tous eus au téléphone ces dernières semaines. J'ai rendu compte de leurs arguments pour donner un contrepoint tout en gardant la ligne générale qui est la nôtre. Mais voilà, donc...
Donc vous avez commencé il y a 6 mois.
On connaît pas, voilà. Mais oui, effectivement, c'est un boulot que j'ai commencé il y a 6 mois et de toute façon, le sujet est monté un petit peu progressivement, je crois.
Nassira El Modem, pardon. Alors vous, journaliste à iTélé, également chargé des questions économiques et sociales, ce conflit des cheminots, vous travaillez dessus depuis 6 mois ou vous l'avez découvert le jour où les RER, et les TER, les TGV et autres ont commencé à rester au dépôt?
Non, je ne l'ai pas découvert à la veille du préavis de grève. On se croise souvent avec Olivier Auguste sur le terrain, donc c'est quelque chose qu'on savait, avec effectivement l'examen du projet de réforme ferroviaire à l'Assemblée nationale. Donc c'était quelque chose d'attendu. Ça montait au sein même des syndicats Sudrail et CGT Cheminots qui prévenaient qu'effectivement ils allaient faire grève. Mais c'est vrai qu'on a, nous, à iTélé, commencé à le traiter à la veille du préavis de grève et surtout au moment où il y a eu cette conférence de presse, donc CGT Cheminots Sudrail à Paris-Gare de l'Est, annonçant donc la grève et nous expliquant nous, à nous journalistes. On n'était pas beaucoup nombreux d'ailleurs ce jour-là à cette conférence de presse, nous expliquant quelles étaient les raisons objectives de leur appel à la grève.
Alors justement, Nassira El-Moadem, vous allez nous expliquer comment AI-Télévision on traite ce conflit. Est-ce que, par exemple, ça se passe comme le raconte le petit journal sur Canal+ ?
Jour de grève est donc une mission pour les journalistes, avoir des sonores de gens qui râlent. On en a vu dans tous les JT.
Je trouve ça juste honteux.
C'est toujours les voyageurs qui trinquent, qui trinquent, qui trinquent.
Ils nous gonflent.
Je trouve ça inadmissible.
On est pris en otage.
Et une des techniques de journalistes pour faire râler les gens, c'est les pousser un petit peu, écoutez.
Mais j'avais aucun direct avant 6h30 ce matin.
Donc la galère.
La galère.
Et en fin de compte, il n'y a pas de train.
La galère.
Voilà, donc galère.
C'est compliqué.
C'est compliqué. Très compliqué.
Alors, est-ce que sur e-télévision, il y avait commande d'avoir les gens qui rouspètent, notamment en direct dans les grandes gares le matin ? Vous-même, vous avez tourné ce genre de reportage ?
Oui, alors, franchement, il n'y a pas ce type de commande. En même temps, c'est assez évident que lorsqu'il y a une grève, que ce soit à la SNCF ou dans d'autres entreprises publiques ou privées, que les usagers, les clients soient impactés. Donc, il n'y a pas de grande surprise à avoir des gens en colère et à des gens qui vous disent qu'ils ont ras-le-bol. La rédaction, évidemment, en chef, ne nous demande pas de ramener des gens qui sont en colère. Il s'avère que vous allez sur le quai de la gare au moment où la grève arrive, les gens, forcément, vous disent, ou en tout cas, ont ce genre de réaction. Donc, c'est d'une évidence assez absolue. Là, j'entends effectivement certaines réactions. Certaines réactions ont été au micro d'ITélé, d'autres ont été au micro d'autres.
Oui, ça pourrait être sur LCI. Sur
antennes,
TF1, sur France 3,
sur
partout.
Sur BFM TV, hein. Sur toutes les antennes, c'est assez classique.
Est-ce que vous vous souvenez ce que vous pouvez doser, quantifier les reportages consacrés justement à la situation dans les gares et les reportages de fond, le dossier SNCF, RFF, la dette ferroviaire, tout ça c'est très pointu. Je vais vous citer juste un tout petit extrait du site Acrimed, alors, qui est toujours très critique sur le traitement des médias généralistes, qui nous dit « Avis de recherche, nous avons bien regardé et écouté les grands médias audiovisuels. Nous avons bien trouvé les innombrables reportages sur les usagers gênés, désemparés, excédés. En revanche, nous avons cherché en vain dans ces mêmes grands médias des explications fréquentes, claires et détaillées. » Est-ce que vous avez le sentiment, le ressenti, Nassira El-Moadem, que peut-être ce travail d'explication, de pédagogie a manqué ou pas ?
Je pense qu'effectivement, il y a un travail de réflexion d'ordre collectif à réaliser, nous, journalistes, nous, médias en règle générale, hein, pas moi, journaliste à iTélé ou iTélé uniquement, sur effectivement notre capacité à expliquer ce type de réforme, ce type d'opposition à la réforme. D'ailleurs, un sondage réalisé par Le Parisien le démontrait bien que une majorité de Français disait ne pas comprendre les raisons de la grève et ne pas comprendre également l'essence même de ce projet de réforme ferroviaire. Donc évidemment, il y a, je pense, une réflexion collective à faire sur est-ce qu'on a fait notre travail de pédagogie. Juste sur l'analyse.
Et d'ailleurs, vous
disiez
que vous étiez quelques journalistes à la conférence de presse des syndicats.
J'ai été assez surprise, effectivement, au moment de la conférence de presse de Sudrail, de CGT Cheminots, avec Nathalie Bonnet, donc de Sudrail, et Gilbert Garel, secrétaire général de CGT Cheminots, voir qu'on n'était pas beaucoup à cette conférence de presse. Alors, peut-être parce qu'elle était attendue, parce que les effets étaient attendus et que finalement il n'y avait pas forcément besoin d'y être, mais c'est vrai que c'est une réflexion, en tout cas c'est quelque chose qui m'avait surpris. Juste pour revenir sur ce que dit Acrimed, le problème, nous, chaîne d'information en continu, c'est qu'on est sur donc de l'information pratiquement 24 heures sur 24, avec des sonores qui sont répétées en permanence et qui peuvent donc donner l'impression d'un peut-être un rabâchage de l'information, peut-être d'une exagération aussi de ce type d'analyse, qu'effectivement on donne beaucoup trop la parole à des passagers en colère, à des voyageurs excédés. Il n'empêche qu'à iTélé en tout cas, on a consacré ce qu'on appelle un focus écho, qui est en fait une chronique écho du soir, un zoom sur une actualité économique et sociale particulière avec des illustrations en graphique. Et moi, je me souviens très bien qu'avant même l'engagement de la grève, j'avais donc fait un focus écho précisant quels étaient donc les détails de ce projet de réforme ferroviaire et pourquoi les syndicats, avant même la grève, disaient qu'ils étaient contre. Pareil, Olivier Galzi, présentateur de la chaîne d'information, la tranche d'information du soir sur iTélé, consacre un grand décryptage le 16 juin à cette question, avec Didier Aubert, donc, qui est le représentant CFDT à la SNCF, un politologue pour nous décrypter quels sont les relents politiques, les explications politiques au positionnement des syndicats sur cette question. Je peux comprendre l'avis d'Acrimed sur la question, avec toute la question et l'interrogation autour des chaînes d'information en continu sur ce type de sujet. Il n'empêche qu'on a quand même consacré quelques sujets sur le décryptage de cette mobilisation des syndicats.
Olivier Auguste, l'opinion avant Thierry Borsa du Parisien.
Oui,
Olivier.
Deux choses. D'abord, les télés ont une contrainte technique. Il leur faut de l'image et des quais bondés ou des trains qui ne partent pas. C'est plus facile à montrer et à mettre en image qu'un projet de loi de réforme ferroviaire qui est quand même compliqué.
C'est pas très sexy en plus à l'image. Un projet
voilà,
de loi.
Mais cette conférence de presse, pardonnez-moi, des syndicats, on l'a diffusée. On a fait même aussi un direct duplex avec Gilbert Garrel avant même de la CGT Cheminot, juste avant même le préavis de grève qui nous expliquer en direct sur iTélé les raisons de l'appel à la grève et aussi l'impact sur les voyageurs, parce qu'on ne peut pas non plus faire fi des conséquences sur le transport des passagers. Donc on a quand même pris soin de donner la parole à ces syndicats avant même le début de la grève.
Olivier Auguste.
Et deuxième point, moi je pense que si on veut chercher des explications sur qu'est-ce que c'est que ce projet de loi, qu'est-ce qu'il y a dedans, essayer de le comprendre, on peut les trouver, ces informations. Alors après, peut-être que ça n'intéresse pas les gens. Moi, j'ai fait, je pense, une dizaine d'articles en 4-5 semaines sur qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, y compris qu'est-ce qu'on change, les amendements qui ont été accordés en concession aux grévistes en dernier moment à l'Assemblée nationale, etc. Avec une thèse que j'ai explicitée, qui était que la SNCF avait sauvé son monopole, mais pas son avenir, parce que ses finances étaient vraiment en mauvais état, et que le projet de loi n'y changerait rien. Enfin voilà. Après, il ne faut pas toujours accuser les médias de... Alors, il y a ce qui est en une et ce qui est un peu plus caché, mais quand vraiment on a envie de s'intéresser au sujet, honnêtement, les explications, on pouvait les trouver.
Thierry Borsa, du Parisien.
Je confirme totalement ce que vient de dire Olivier. Moi, je m'occupe de la rédaction du Parisien, mais je regarde évidemment tous les autres titres tous les jours. J'écoute régulièrement les radios, je regarde les télévisions d'Info Continue. Les explications sur la réforme du transport ferroviaire, elles ont été données par tout le monde, avec plus ou moins de détails, mais en tout cas, personne n'a pu... les ignorer à condition, effectivement, et là aussi je rejoins Olivier, à condition de vouloir s'y intéresser. Parce que cette grève, qu'est-ce qu'elle a eu d'un peu particulier par rapport à d'autres grèves des transports ? Parfois, il y a des grèves de transport où on assiste à une certaine compréhension des usagers, parce que ça concerne des suppressions d'emplois, ça concerne des modifications de conditions de travail, et y compris quand ça vient de la SNCF, ben, finalement, il y a des gens qui se disent « Moi, je suis salarié aussi, je n'ai pas forcément la même possibilité parce que la taille de mon entreprise, parce que, etc., etc., de manifester c'était mon mécontentement face à des mesures sociales. Donc, finalement, laissons-les un peu faire grève par procuration.
Ça avait été le cas en 95.
Voilà, ça nous casse les pieds tous les matins, mais d'une certaine manière, ils portent aussi nos revendications. Là, il n'y a aucune revendication qui pouvait être partagée par tous ceux qui ont
fait cette grève. Et ça, vos reporters vous le disaient.
Absolument. Et comme il n'y a aucune...
Les syndicalistes eux-mêmes, le reconnaissaient.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, je pense que ça a largement participé à l'incompréhension du grand public sur la durée de la grève et la manière dont elle, finalement, dont elle est restée très dure pendant plus d'une dizaine de jours.
Nassira El Mouadem.
Oui, juste sur le côté grève qui dure, puisque la grève s'est terminée il y a encore à peine un jour ou deux, il y avait encore quelques foyers contestataires, notamment Sudrail, dans certains départements en France. Mais c'est vrai que plus la grève dure, et plus nous les médias, c'est un peu compliqué de trouver des angles, de trouver quelque chose pour justement attirer le chaland, entre guillemets, des téléspectateurs et leur expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et forcément...
Surtout quand le téléspectateur est usé par des trains bondés, etc.
Absolument. Et forcément, on en arrive à effectivement une accumulation, une multiplication des témoignages de gens qui sont en colère, mais parce que j'ai envie de dire presque qu'il ne reste plus que ça, puisque le travail d'explication a été fait, alors peut-être pas assez selon certains, moi je veux bien entendre cette critique, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment, si la grève dure, on en arrive à ce type de constat.
Olivier Auguste.
Oui, cette grève a peut-être eu un intérêt, je mets des guillemets autour de ce mot, c'est de sortir de l'appellation « les syndicats ». Il y avait deux camps très nets, et je pense que beaucoup de journaux et dire ça avec un clin d'œil à Thierry Borsa, de patrons de rédaction ont découvert que les syndicats, c'était peut-être pas une formule toujours très appropriée. Et là, très clairement, il y avait deux syndicats qui défendaient la réforme, ou en tout cas qui souhaitaient l'amender mais pas la bloquer. Deux autres qui s'y opposaient clairement et par la grève. Et voilà, il y a peut-être eu un petit peu de pédagogie sur ce qu'est le monde syndical et un petit peu de nuance apportée. Voilà, ça fait pas mal.
Avec une utilisation, pardonnez-moi, assez large par le gouvernement de justement ces deux blocs qui s'affrontent, avec d'un côté les syndicats qu'on a appelé réformistes et que Frédéric Cuvillier a longtemps félicité devant les radios et les caméras, et de l'autre côté les syndicats qui ont été appelés conservateurs par les autres.
Thierry Borsa.
On peut même complexifier encore un petit peu cette affaire, puisque je crois qu'au sein de la CGT elle-même, tout le monde n'était pas forcément sur la même ligne. Nous, on a réussi à faire parler assez rapidement Thierry Le Pen, qui d'ailleurs nous
qui est le secrétaire national de la CGT,
qui nous a annoncé d'ailleurs que la grève allait s'arrêter, puis elle a duré encore 5 jours ou 6 jours. Ce qui est bien la preuve d'ailleurs qu'il n'avait pas tous les leviers en main pour décider si ça continue ou si ça ne continue pas. Et il ne cachait pas qu'il y a une partie de la base qui lui échappait complètement dans ce mouvement-là.
Vous parliez de l'intérêt, entre guillemets, de cette grève. C'était de nous apprendre qu'il n'y a pas les syndicats, mais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Cette grève, elle nous a aussi permis, Éric Chavroux, je me tourne à nouveau vers vous, elle nous a permis de découvrir une communication de crise à peu près inédite de la part de la SNCF dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux.
Oui, avec ce qu'on pourrait appeler des gilets rouges 2.0 en quelque sorte, qui n'ont pas chômé, hein, parce que même s'ils étaient 8 au lieu de 4 en temps normal, donc effectif doublé, il faut dire que les usagers bloqués à quai, ils n'ont pas laissé les mobiles dans la poche et ils se sont donnés à cœur joie dans les questions, mais aussi les insultes, les interpellations. Il y en a une, par exemple, que vous avez relevée, Olivier Auguste. C'est une jeune fille qui a demandé à la SNCF sur Twitter « C'est ta mère qui m'emmène au Stade de France » ou « Comment ça se passe ?» Eh bien, la SNCF lui a répondu parce que l'entreprise a répliqué en fait, de manière très organisée dans ce conflit en ligne sur les réseaux sociaux. Et d'abord, sa cellule de crise numérique a donc décidé de, peut-être pas le plus possible, mais souvent, de répondre, ce qui n'était pas forcément le cas avant, pour aussi répondre à cette très mauvaise irréputation d'un coup. Alors, il n'était pas question pour autant de faire de l'humour, parce que ça aurait pu être très mal perçu. La priorité, c'était de l'information pratique. Et aussi, la grande nouveauté, en tout cas à ce niveau-là, ça a été le renvoi vers les syndicats. C'est-à-dire que souvent, sur certaines questions bien précises, les comptes Twitter de la SNCF ont dit tout simplement poser ces questions aux
adressez-vous à Sudrail.
C'est pas nous, c'est eux. Et eux étaient nommés CGT et Sudrail. C'est très très nouveau.
Aux organisations concernées. Et puis aussi la SNCF qui s'est pas privée de répéter les taux, alors selon elle, hein, les taux officiels de grévistes et de non-grévistes, et aussi le directeur de la communication qui s'est servi d'un outil, une plateforme virale de son pour, par exemple, le 18 juin, affirmer qu'il y avait davantage de gilets rouges déployés que de cheminots en grève.
Nassira.
Oui, juste sur la question du community manager de la SNCF, je crois que c'était au bout du troisième ou quatrième jour, il affirme sur Twitter, avant même les assemblées générales, que la grève est reconduite. Et donc là, c'est repris par plusieurs titres de presse sur Internet, le Figaro, le Parisien, il me semble, comme ça, de mes deux mémoires. Sauf que le CM n'avait pas l'air d'être informé qu'il fallait attendre que les grévistes eux-mêmes décident en Assemblée Générale. C'est pas la même culture. Décident en Assemblée Générale que la grève était reconduite. Et puis sur la question du renvoi au syndicat, ce qui m'avait assez frappé de la part du CM de la SNCF, c'est que quand il renvoyait à des vidéos ou à des déclarations de représentants syndicaux, c'était uniquement la CFDT et l'UNSA. CFDT et UNSA qui étaient donc favorables,
plutôt favorables
au projet de réforme ferroviaire et qui n'étaient pas grévistes.
Olivier Auguste, dont je précise qu'il a signé un portrait du directeur de la communication de la SNCF dans l'Opinion.
Oui, parce que j'ai trouvé qu'il avait mis en place une com vraiment, moi j'ai dit gonflée, mais en tout cas très détonnante dans cet univers
volontariste.
Public. La communication publique, il y a souvent encore pas mal à dépoussiérer. Et alors évidemment, la question, l'intérêt, c'est de se demander pourquoi, dans quel but ils ont fait ça. On pouvait les soupçonner de vouloir un petit peu plus creuser le fossé entre l'opinion, qui n'était clairement pas favorable à cette grève, et les grévistes, pour un petit peu les isoler. Alors eux disent non, c'est pas ça du tout notre problème. C'est aussi de mettre en valeur les agents qui sont au boulot, et notamment ces fameux gilets rouges qui sont des volontaires qui en général travaillent dans les bureaux, qui descendent sur les quais, qu'on prenne plein la gueule, hein, parce qu'ils se font enguirlander tout au long de la journée. Et c'était une façon aussi de leur dire à eux, la direction est consciente du boulot que vous faites et on vous soutient. Bon, il y a forcément un peu des deux.
Ils ont publié d'ailleurs beaucoup de photos de ces gilets rouges via leur compte Twitter, souvent des photos posées. Et aussi, c'est assez incroyable ça, ils se sont servis de l'open data, c'est-à-dire qu'ils ont publié un tableau des conflits sociaux à la SNCF depuis 1947 pour comparer...
les mobilisations.
Voilà.
Thierry Borsa du Parisien.
Alors je vous confirme que la direction de la SNCF, elle était d'abord très super fière de ce qu'ont fait les fameux gilets rouges, puisqu'en effet, je crois que c'est, comme vous le disiez, le 18 juin, Guillaume Pépi nous a fait la comparaison entre le nombre de grévistes et le nombre de gilets rouges présents sur le terrain, avec plus de gilets rouges que de grévistes.
Il était en interview dans le Parisien ce jour-là.
Il était en interview dans le Parisien, et d'ailleurs on l'a interviewé au siège de la SNCF, où il avait mis en place un vrai centre de crise, c'est-à-dire qu'il y avait des écrans géants qui donnaient l'état du trafic et l'état des trains en circulation, des caméras qui filmaient ce qui se passait sur les quais, au moins une dizaine de personnes dans un centre de contrôle hyper sophistiqué. Et Guillaume Pépi nous a reçus dans le bureau, son bureau qu'il avait en fait aménagé dans une salle de réunion juste à côté de cette cellule de crise, pour bien montrer qu'il était hyper présent sur le terrain. D'ailleurs, il a été lui-même dans une gare, je crois, en Ile-de-France un matin. Il nous a expliqué que sa directrice des lignes TGV, sa directrice de l'Ile-de-France ont été remplacés des contrôleurs pour que des convois puissent partir, parce qu'un convoi SNCF ne peut pas circuler s'il n'y a pas un contrôleur. Donc effectivement, le rôle des salariés de la SNCF a été particulièrement souligné. Après, on est aussi dans un cas de figure un peu particulier, puisque la grève, elle était finalement contre une réforme que l'État, de toute façon, impose, entre guillemets, à la SNCF. C'est-à-dire que ce n'est pas la direction de la SNCF qui avait choisi de prendre des décisions qui n'ont pas plu aux partenaires sociaux. C'est une réforme voulue par l'État.
Bientôt 9h-20 sur France Culture. C'est le secret des sources.
Qu'ils incommodent ceux qui ont les moyens de consommer. Qu'est-ce qu'on attend pour expulser les assistés, les parasiteux, tous ces minables, ces maillons faibles qui ralentissent le marché.
Nous n'avons plus les moyens, tra-la-la-la. Nous n'avons plus les
Marcel et son orchestre, nous n'avons plus les moyens. Parallèlement à ce conflit à la SNCF, il y avait donc le mouvement des artistes et des techniciens intermittents avec, en mémoire, cet été 2003.
Il est midi 14, cloître Saint-Louis d'Avignon, comme un ultime rendez-vous. Après 11 jours et 11 nuits de négociations, de reculades et d'espoir, le directeur du Festival de Théâtre d'Avignon annonce ce que tout le monde sait ou sent déjà, l'annulation.
Donc maintenant, effectivement, je peux, hélas, annoncer que le 50e festival n'aura pas lieu cette année 2003.
Moment de confusion, de tension. L'histoire...
C'était France 2 le 10 juillet 2003. Annulation du Festival d'Avignon. On n'en est pas encore là, mais il y a déjà eu des représentations annulées dans plusieurs villes de France. Et ce lundi 16 juin, à 13h, sur France Inter, la présentatrice Claire Servajan évoquait les deux conflits, SNCF et intermittents.
Bonjour à tous. Fermeté sur la SNCF, ouverture sur les intermittents. Ce matin, le gouvernement a clairement donné le ton. Concernant la grève à la SNCF, pas question de céder, la réforme sera débattue comme prévu au Parlement. Seule nouveauté, le secrétaire général par intérim de l'UMP, Luc Chatel, demande le retrait du texte. Mais on verra que tout le monde n'est pas d'accord, loin de là, à l'UMP. Ce matin, les candidats au bac ont fait avec la grève. Certains sont arrivés en retard aux épreuves de philo et de français. Mais globalement, Benoît Hamon estime que ça s'est bien passé. Reste une question, y a-t-il eu des fuites sur certains sujets? Une enquête est ouverte. Le deuxième grand titre de l'actualité, c'est le conflit des intermittents. Ce matin, le gouvernement a donné l'impression de vouloir tout remettre à plat. L'État est prêt à aller très très loin, dit même Aurélie Filippetti dans le journal Le Monde.
Mais France Inter, le 16 juin, donc vraisemblablement une forme d'indulgence ou de compréhension de la part du politique, hein, même si le mouvement n'est pas terminé. Et donc cette question, la même compréhension, la même indulgence médiatique à destination des intermittents du spectacle. Est-ce que cette thèse est la bonne selon vous? Qui souhaite répondre? Thierry Borsa du Parisien.
Je ne sais pas si on peut parler de plus d'indulgence ou pas plus d'indulgence. Ce qui est sûr, c'est que d'abord, ça touche directement moins de personnes. Et que par ailleurs, sur les intermittents...
Moins de personnes au niveau des salariés concernés ou du public
au niveau du public qui pourrait être touché par ces mouvements, même s'il y a un attachement très très fort sur un certain nombre de grands festivals de l'été et que ça fait même partie du programme des vacances de pas mal de Français. Mais en tout cas, la gêne au quotidien est évidemment beaucoup moins importante. Après, pour le coup, c'est aussi quelque chose, un conflit qui était basé sur des désaccords qui ont été finalement relativement faciles à expliquer. Et on est probablement assez rapidement sorti de cette espèce d'idée reçue. En gros, il y a des gens dans le spectacle qui gagnent beaucoup d'argent et puis si de temps en temps ils ne travaillent pas, ils n'ont qu'à se contenter de ce qu'ils ont. Je pense que maintenant, une partie importante du grand public a bien compris que les intermittents, c'était aussi des gens qui travaillaient dans des structures qui n'étaient pas forcément directement des structures de spectacle. Il y a beaucoup d'audiovisuel qui utilisent des intermittents, que parfois les intermittents, ce n'est pas du tout des acteurs ou des techniciens du spectacle, mais c'est peut-être la comptable ou la secrétaire d'une maison de production et que de fait là ça touche des gens avec lesquels on peut se sentir quelques affinités.
Qui veut réagir, Nassira El Mouadem?
Très rapidement, oui.
Itélé.
Je pense qu'il y a aussi la question de la temporalité, la question de l'urgence du traitement politique de ces affaires. Effectivement, la question des intermittents, on sait bien que les festivals de l'été seront menacés. Là, pour la SNCF, il y a toute la question des départs les week-ends, des départs des ponts du mois de mai et juin, plus la question du bac qui a été un peu instrumentalisé, disons-le, mais voilà, le traitement temporel n'était pas le même pour la SNCF et pour les intermittents.
Olivier Auguste.
Oui, je pense que les intermittents, ils ont deux atouts. D'abord, une sorte d'attention naturelle à leur cause, en tout cas dans l'audiovisuel, parce que voilà, les chaînes de radio, de télé publiques tournent avec des intermittents, les boîtes de production audiovisuelle tournent avec des intermittents. Donc voilà, il y a un intérêt pour la question, au minimum. Et puis, il faut bien dire qu'ils ont ils bénéficient d'une exposition de par leur métier que n'ont pas beaucoup d'autres catégories professionnelles. Quand ils peuvent prendre la parole aux Molières devant la ministre qui en est réduite à les écouter sans pouvoir répliquer, quand ils peuvent s'exprimer sur France 2 en direct au moment de la fête de la musique, avoir des propos très durs pour le MEDEF, pourquoi pas, ce sont leurs arguments, très durs aussi pour les syndicats qui ont signé l'accord UNEDIC, on en parlera peut-être, quasiment traiter le gouvernement de social traître et sans contrepoids, parce que personne ne leur interdit évidemment d'exposer leurs arguments, mais il n'y a aucune réponse en face et ils ont ce temps d'antenne disponible. C'est formidable pour eux.
Je voudrais qu'on s'arrête sur les mots choisis pour évoquer ce conflit des intermittents. Bonjour Mariette Darigrand.
Bonjour.
Sémiologue du Secret des Sources. Alors généralement, et on l'a fait ici, nous journalistes parlons d'intermittents et pas d'acteurs, de techniciens, de danseurs, de choristes. Souvent, trop souvent, on les renvoie à leur statut et moins à leur métier.
Absolument, mais c'est intéressant de reprendre justement le mot au départ. C'est un statut, évidemment, c'est un statut de bénéficiaire, c'est un statut presque de victime ou de pré-victime hein, de la rupture salariale. Alors dans ce cadre-là, c'est intéressant parce qu'au départ, ce statut-là a été donné précisément à des corps de métier, à des artisans, par exemple des menuisiers ou des costumières, hein, qui ne voulaient pas venir travailler dans le monde du spectacle, qui par définition est un monde libéral, on pourrait dire, puisqu'on n'a pas tout le temps du travail quand on est un artiste, et à qui on a donné un cadre de type salarial. Et ça, c'est le début. Donc au fond, il y avait une sorte de dynamique libérale dans le statut. Alors qu'aujourd'hui, on est tout à fait à l'inverse. Hein, ça, c'est dit beaucoup de choses sur la France. Et aujourd'hui, un intermittent, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un travailleur précaire. D'ailleurs, intermittents et précaires sont réunis aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça que les gens s'identifient, à commencer par les journalistes d'ailleurs. Au fond, c'est le français. Voilà, donc c'est le français moyen, comme on dit plus aujourd'hui. L'intermittent peut représenter une sorte de français moyen, c'est-à-dire un petit peu obligé de sortir du salariat, qui est ce qui va se passer dans les années à venir, mais quand même pas trop. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui est très complaisant d'une façon générale. Alors, dans le récit médiatique, c'est un personnage que l'on accompagne et puis qui, effectivement, peut poser des sortes de pouvoirs médiatiques étonnants. Je pensais, quand vous parliez tout à l'heure devant la ministre, surtout au moment où elle était interpellée par des intermittents nus. C'était quand même une scène, alors là, pour Éric Chavroux, extraordinaire de pouvoir, de prise de pouvoir.
Olivier Auguste de l'Opinion.
Un tout petit point de comparaison en essayant de ne pas être barbant avec des chiffres, mais l'accord d'assurance chômage dont on parle couvre tous les salariés, pas seulement les intermittents, ils sont moins de 3% de l'ensemble des salariés. Cet accord, il applique de nouveaux différés, c'est-à-dire qu'on doit attendre plus longtemps avant de commencer à toucher des allocations chômage. Ça ne s'applique pas qu'aux intermittents. Le cas général, il concerne 60 000 personnes, c'est-à-dire que 60 000 personnes vont être touchés négativement par les nouvelles règles. Et grosso modo, ça représente une économie de 260 millions d'euros pour l'assurance chômage en année pleine. Le cas des intermittents, il va y avoir 70 000 perdants et ça représente 100 millions d'euros d'économie. Ça veut dire que individuellement, dans le cas général, les personnes vont être beaucoup plus durement touchées que les intermittents. Et en particulier, pour des raisons techniques que je vous épargne, les salaires supérieurs, les cadres, les techniciens. Ceux-là, on ne les a pas beaucoup entendus et pourtant, ils ont manifesté, la CGT cadre et technicien a fait des manifestations. Donc voilà, ce n'est pas moi qui défend leur cause, c'est aussi la CGT. On ne les a pas beaucoup entendus et donc voilà, illustration de cette caisse de résonance qu'ont les intermittents.
Mariette Darigrand.
Oui, je voulais revenir sur à propos des cheminots. Alors, les cheminots, c'est l'inverse, c'est un métier et qui aujourd'hui est considéré comme un métier nanti. C'est pas un chômeur, un cheminot. Bon. Donc c'est aussi, ça explique une des raisons pour lesquelles, dans les discours médiatiques...
Ils sont en CDI avec un revenu
voilà,
garanti chaque
et là,
mois.
Là, les médias
ils sont
qui...
en CDI avec une certaine sécurité de l'emploi,
ouais.
Avec des avantages
d'accord.
sociaux, notamment et... concernant l'âge de départ à la retraite. Donc effectivement, tout ça résonne
voilà.
aussi
et
dans
les médias qui font leur fonction de miroir, là, vous n'interpellez pas la SNCF, hein. Vous n'allez pas beaucoup enquêter, mais vous montrez un miroir au public, à votre public, comme vous disiez, pour attirer un peu le chaland. Et alors, ce que fait la SNCF, et de mon point de vue, enfin, d'un point de vue sémiologique, je trouve que c'est à critiquer, quand même, comme posture. Quand la SNCF crée les gilets rouges, c'est un signe quand même très intéressant, parce qu'évidemment, c'est analogique avec les bonnets rouges.
Ça existait avant,
ça existait
les bonnets
rouges. Oui, bien sûr. Mais dans le récit médiatique, quand on fait monter, comme ça a été mis en image quand même ces derniers temps, cette problématique, on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une concurrence entre, en quelque sorte, des vrais travailleurs, les gilets rouges, et des faux travailleurs qui seraient
ils
aujourd'hui
ont pas osé
des
faire
privilégiés.
Les gilets jaunes.
Exactement. Alors que la symbolique, ce serait... en quelque sorte, les jaunes casseurs de grève. Donc, vous voyez, on a là, du point de vue de l'instrumentalisation des signes, quelque chose qui peut être discuté. Or, la presse, vous, les médias, n'êtes pas très critiques vis-à-vis de cette... n'êtes pas très critiques avec la... parce que c'est difficile. Ça, je pense que ce qui s'est passé avec la mise en scène du face-à-face entre usagers et grévistes est une façon d'éviter l'enquête... des problèmes, des dysfonctionnements de la SNCF, d'une façon générale. Or, il y en a beaucoup ces dernières années.
C'est une dette ferroviaire de 44 milliards
oui,
d'euros environ.
C'est des problèmes de sécurité. Il y a quand même eu des gros problèmes.
Ouais.
Voilà. Et il y a régulièrement des problèmes de qualité de service sur le TGV qui expliquent quand même en partie la baisse de l'usage de cet extraordinaire train.
Et le prix. Nassir El-Mouadem de iTélé.
Je pense que ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'on peut effectivement donner la parole aux voyageurs qui se disent excédés par rapport à une grève qui dure.
Oui, mais c'est devenu un topo, c'est devenu un lieu commun. On n'a plus besoin de le voir, ça.
Oui, absolument, mais le fait est que ça existe. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne leur donne pas la parole, on ne va pas dans les gares et on fait mine que ça n'existe pas. Je ne pense pas non plus que ce soit la solution. En revanche, et vous avez raison de pointer du doigt la question des enquêtes, la question des investigations, mais allez taper à la SNCF, allez chercher des informations auprès de la SNCF. C'est difficile, c'est compliqué.
C'est
beaucoup de temps, effectivement, mais juste par exemple, pour aller demander un tournage auprès de la SNCF sans presque gratter ce qui pose problème, la SNCF met énormément de temps quand elle répond, parce que parfois elle ne répond pas. Donc il y a
un
problème.
Sauf pendant la grève.
Enquêter sur les gens dont on vous dit qu'ils ont occasionné un retard parce qu'ils ont volé des. Je sais pas quoi. Voilà, cette excuse, effectivement, comme ne dit pas la SNCF, mais qui est récurrente quand on prend le TGV souvent.
Ouais,
ça demanderait. Moi, je n'ai jamais vu une enquête.
Mais je pense que ce n'est pas incompatible. Je pense qu'on peut donner la parole à des voyageurs et à des syndicalistes grévistes pour les raisons de la grève et en même temps aller enquêter. Maintenant, à ITL, on n'a pas de place à l'investigation. On est une chaîne d'information en continu, donc on est une chaîne qui rapporte l'information au moment où elle se passe.
J'ai une question sur les intermittents du spectacle, les artistes qui, très souvent, et je fais un peu écho à ce que disait Olivier Auguste de l'Opinion, sont représentés via le portrait de l'acteur, de la troupe, du jongleur, etc., qu'on va tous voir cet été dans un ou voire dans plusieurs festivals. Mais c'est vrai qu'effectivement, médiatiquement, il n'est pas représenté comme un réalisateur, un technicien d'audiovisuel, puisqu'on l'a dit, il y a beaucoup d'intermittents dans les boîtes de production d'audiovisuel ou ici à Radio France. On ne va pas s'en cacher non plus. C'est quoi ? C'est une facilité ? C'est une difficulté à accéder à la source ? Olivier
parler
Auguste.
De ces exemples-là, je ne veux pas parler pour les chaînes de radio, de télé, surtout publiques, mais en tout cas, il est certain que c'est là le vrai problème. Le problème, c'est clairement pas l'acteur qui fait deux festivals pendant l'été et une ou deux pièces pendant l'année. Le problème, c'est ce qu'on a surnommé les permittents, c'est-à-dire qui ont le statut d'intermittent, mais qui sont en réalité des permanents. Ils n'ont qu'un seul employeur d'un bout à l'autre de l'année. Cet employeur trouve bien pratique, plutôt que de le salarier du 1er janvier au 31 décembre, vacances incluses, divers avantages, comité d'entreprise, tickets restaurants, que sais-je, l'employeur trouve bien pratique de le salarier pendant quelques semaines, de faire prendre le relais à la collectivité,
à
la puissance publique, aux finances publiques, aux cotisations sociales, et puis de le reprendre un petit peu plus tard, etc. Et sans tomber dans la caricature, ça peut aussi arranger certains intermittents, en tout cas quand ils sont certains de retrouver leur job, parce que voilà, ils peuvent avoir un petit peu plus de vacances que le salarié qui est à 5 semaines de congés payés. Je dis bien, ça peut, je ne prétends pas que c'est le cas général.
On a bien compris que vous ne généralisiez pas. Thierry Borsa du Parisien.
Non, je crois que sur les intermittents, le décryptage de la situation, à la fois qui ils sont, les raisons pour lesquelles ce mouvement est né, ce qu'ont été les premières réponses du gouvernement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, écrites. Il y a même un certain nombre de médias qui ont évoqué des pistes de solutions. J'ai entendu sur une radio qui n'est pas du tout la vôtre, un chroniqueur qui expliquait que finalement, dans ce pays où on a créé ce régime pour faciliter l'accès à la culture pour tous, il y avait une partie de la population qui ne cotisait pas du tout et que ça faisait aussi partie des raisons qui généraient le déséquilibre du régime de ces intermittents. Donc je pense que sur le fond du problème, l'ensemble des médias a plutôt bien fait le job. Après, sur ce que vous disiez sur la représentation,
sur l'incarnation,
et notamment dans la presse écrite, c'est vrai que sur ce genre de sujet, on a plutôt tendance à prendre une photo d'acteur qui sont sur une scène, qui sont en posture de spectacle, plutôt en effet que de prendre un bureaucrate qui a effectivement lui aussi souvent un statut d'intermittent. Mais c'est plus représentatif, ça attire plus le regard.
Olivier Auguste.
Oui, une chose qui m'a semblé très frappante dans le traitement médiatique de ce conflit des intermittents, c'est que peut-être plus que des différences d'un média à l'autre, on voit des différences selon le service auquel appartient le journaliste qui est en charge du papier ou du reportage. Je m'explique, vous n'aurez clairement pas les mêmes papiers s'ils sont écrits par quelqu'un du service culture d'un média et s'il est écrit par quelqu'un du service éco ou social. Et c'est très intéressant parce que ça reflète un des problèmes de fond et une des étincelles de cette crise. On est là dans un cas de figure un petit peu compliqué, c'est-à-dire qu'on parle d'un accord qui concerne tous les salariés de ce pays, qui a été signé par toutes les organisations patronales nationales et par 3 syndicats qui représentent clairement la majorité des salariés du pays.
Dont CFDT et Force Ouvrière,
deux gros syndicats. CFDT, Force Ouvrière et CFTC qui sont donc à eux trois clairement majoritaires. Mais ces trois organisations-là ne représentent pas grand-chose dans le monde spécifique du spectacle. Et les patrons du secteur du spectacle vivant ne sont pas du tout représentés au MEDEF. Et c'est justement l'une des raisons de ce conflit Et c'est assez amusant de voir que ça se reflète assez bien dans les papiers selon le service du journaliste et j'irais même dire selon le Figaro, vous savez, découpé en trois cahiers, un cahier général, un cahier éco et un cahier culture. Les papiers ne sont pas les mêmes dans le deuxième et dans le troisième cahier.
Nassir Al-Mouadem. Sur cette question des intermittents, alors c'est vous au service éco-social qui allez traiter ? C'est le service culture ? C'est un peu tout le monde ?
Non, c'est essentiellement le service éco-social qui traite ce type de sujet. Nous, on l'a beaucoup traité au moment de l'accord entre les syndicats et le patronat, accord UNEDIC. Mais oui, je suis assez d'accord sur la question de la représentativité, de la représentation de l'intermittent qui peut être parfois caricaturale, qui plus est en télévision. Hein.
Thierry Borsa.
C'est un sujet très intéressant pour le fonctionnement des médias. Et on est bien là dans une émission où on parle du fonctionnement des médias. Sur ce conflit des intermittents, moi, ça m'a paru très très bien qu'on ait des journalistes du service spectacle, culture, qui aillent finalement se frotter un peu à un conflit social, parce que leur source permettait d'avoir des interlocuteurs que n'avait pas forcément le service économie. Et tout ça donne en fait un regard plutôt riche, plus riche, moins caricatural dans le traitement que ce qu'on peut avoir quand on a un journaliste éco qui traite son truc avec uniquement les mots et les habitudes du journaliste économique. Là, on a vu autre chose, on a vu d'autres phrases, on a vu d'autres formules arriver dans le traitement de ce conflit et je trouve ça plutôt sympa.
Mais si je décrypte ce que nous disait Olivier Auguste, le journaliste culture sera peut-être plus dans l'empathie avec l'artiste en lutte qu'avec que le journaliste éco qui, lui, est plus technicien du dossier.
On est tous des gens qui répercutons ce que nous disent nos sources d'une façon ou d'une autre, avec plus ou moins de distance, mais pour vous dire ce que je veux dire par traitement différent, je ne suis pas du tout en train de dire que les uns ont plutôt pris le parti des intermittents et les autres plutôt des patrons, etc. Les journalistes économiques et sociaux, naturellement, ont plutôt répercuté le discours du ministère du Travail, du MEDEF et des syndicats nationaux, et les journalistes culture ont plutôt répercuté le discours, et qui est souvent assez convergent, de la CGT spectacle, de la coordination des intermittents et précaires, et des patrons d'entreprises du spectacle.
Merci beaucoup Olivier Auguste de l'Opinion, merci à vous Thierry Borsa, directeur de la rédaction du Parisien, merci à Nassira El-Mouadem de la rédaction d'iTélé, merci également à Mariette Darigrand, notre sémiologue, et à notre homme de l'image et du multimédia, Éric Chavroux.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens.
Fallait-il présenter Charles Aznavour ? Viens voir les comédiens. Nous verrons dans les jours à venir si les comédiens seront bien sur scène dans les festivals de l'été. Le secret des sources, une émission de Jean-Marc Four, présentée cette semaine par Frédéric Mettezo, Mathias Meji à la préparation, Vincent Abouchard à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Le débat continue sur franceculture.fr, sur Twitter et sur Facebook. À 9h, le journal de Sarah Petitbon. À 9h05, réplique d'Alain Finkielkraut. Aujourd'hui, le colonel Delarocque en connaissance de cause. Avant cela, notre rembobinage. Bon week-end à tous.
Il ne faut pas toujours accuser les médias de... Alors, il y a ce qui est en une et ce qui est un peu plus caché, mais quand vraiment on a envie de s'intéresser au sujet, honnêtement, les explications, vous pouvez les trouver.
Sur ce conflit des intermittents, moi, ça m'a paru très très bien qu'on ait des journalistes du service spectacle, culture, qui aillent finalement se frotter un peu à un conflit social, parce que leur source permettait d'avoir des interlocuteurs que n'avait pas forcément le service économie.
Je pense qu'on peut donner la parole à des voyageurs et à des syndicalistes grévistes pour les raisons de la grève, et en même temps aller enquêter. Maintenant, à iTélé, on n'a pas de place à l'investigation. On est une chaîne d'information en continu, donc on est une chaîne qui rapporte l'information au moment où elle se passe.